C'est l'histoire d'un choix, un choix qui a sauvé la vie d'une jeune fille juive pendant la Seconde Guerre mondiale, un choix qui lui a permis de vivre alors que ses sœurs, elles, ont connu un destin tragique. Un choix fait par une mère qui n'est pas sans rappeler le fameux choix de Sophie dans le roman de William Styron. Cette histoire, c'est celle de Zuzana Lederereva, un destin qui fait revivre Yulita Mateyacheva, une jeune journaliste passionnée. Plus de détails avec Anna Kubishta dans la reprise d'une émission que nous avons diffusée pour la première fois le 16 février 2011.
Chapitre de l'histoire.
C'est un peu par hasard que Yulita Mateyacheva a rencontré Zuzana Lederereva dans le cadre d'un projet organisé dans les écoles intitulé Zmezali Sousede, incitant la jeune génération à rechercher les personnes disparues dans leur proche voisinage pendant la guerre. Les élèves de l'école primaire de Velki Beranov enquêtent sur le destin d'Elena Bemova, disparue dans les camps nazis. Yulita rédige un article sur la jeune femme juive dont les enfants ont retrouvé une photographie réalisée juste avant son départ en 1942. Une photographie qu'elle n'ira jamais chercher et qui, grâce au travail des enfants, a pu être restituée à sa cousine près de 70 ans après. Car en effet, Zuzana Lederereva reconnaît tout de suite dans l'article de Yulita sa cousine Helena, comme elle, originaire de Yerlava et dont elle découvrira le destin tragique après la guerre. Car Zuzana, elle, contrairement au reste de sa famille, entièrement décimée, a survécu par miracle et c'est cette histoire incroyable que Yulita souhaite faire connaître aujourd'hui.
À ma plus grande surprise, j'ai découvert qu'il en avait réchappé par un concours de circonstances. Elles étaient trois filles dans la famille. Zuzana était la cadette. Sa mère avait eu vent de la possibilité de cours sionistes pour les enfants juifs qui leur permettaient de partir en Palestine.
À cette époque-là, Zuzana a 15 ans. Sa mère décide donc de l'envoyer à Prague, alors que dans sa ville d'origine, Yerlava, l'atmosphère est délétère et les conditions de vie au quotidien pour les Juifs deviennent invivables. Yulita Mateyacheva.
Au début, le sionisme était considéré en pays tchèque plutôt comme un mouvement de jeunesse, sportif, avec un accent sur la culture juive, un peu comme les Sokols en fait. Mais au vu de l'évolution de la situation en Tchécoslovaquie occupée, il a fallu beaucoup plus préparer les enfants à partir pour la Palestine. C'est un cours préparatoire de ce genre que Zuzana a fréquenté à Prague. Elle a commencé en 1939. Sa mère n'a pu envoyer qu'elle parce que le nombre de places était limité. À Prague, il y avait en tout 70 enfants de toute la République tchèque. La moitié venait des Sudètes, l'autre moitié de Prague et des environs.
Seuls les plus chanceux donc bénéficient de ces cours qui vont leur sauver la vie. L'aspect financier joue un rôle aussi. Les cours sont chers, ce qui restreint encore plus les possibilités d'y participer. Une partie de l'argent déboursé par les parents servira en effet à payer les nazis afin que ceux-ci permettent au groupe de jeunes de partir. En attendant, avant le départ pour le Danemark, les cours se déroulent près de l'ancienne gare de Tieschnov, aujourd'hui disparue. C'est le mouvement sioniste qui organise à la fois les cours et l'apprentissage pratique. En 1939, les enfants sont envoyés dans les montagnes Orletske Hore, dans un petit village.
Là, ils apprennent le travail agricole et aident les fermiers. La plupart de ces enfants venaient de la ville. C'était pour eux quelque chose de nouveau de travailler au champ. Mais la plupart ont aimé cette étape. Ils avaient entre 14 et 16 ans. C'était la condition de base pour pouvoir partir en Palestine, de même qu'une préparation au travail agricole.
La situation intérieure et internationale devient toutefois de plus en plus compliquée. En plus de l'occupation de la Tchécoslovaquie par les nazis, la guerre éclate et il est temps pour les enfants qui suivent les cours sionistes de partir. Le mouvement Youth Alia, qui œuvre alors pour faire sortir des juifs de l'Allemagne nazie, demande au Danemark d'accueillir des enfants. Le gouvernement finit par accepter d'en héberger environ 600 venus de toute l'Europe, dont les jeunes venus de Tchécoslovaquie. Parmi eux, Susanna et son futur époux, Arnošt Lederer. Au Danemark, ils sont pris en charge par la Ligue féminine pour la paix et la liberté qui répartit les enfants dans des familles. Judita Matiášová.
Parler de famille reste toutefois une notion très relative. En effet, d'après ce que j'ai pu lire, ou bien encore dans le cas concret de Susanna, celle-ci a été placée dans une famille sans enfants et elle a été victime d'attouchements sexuels de la part du mari dès son arrivée. Donc cet accueil dans les familles était loin d'être idyllique dans beaucoup de cas. Susanna, pour sa part, a demandé à être transférée dans une autre famille. Dans le cas des garçons, ils ont en général été envoyés travailler à la ferme, tandis que les filles sont restées dans les villes et aidées aux travaux ménagers des familles. Les garçons, eux, travaillaient sans honoraire, bien entendu.
Si le départ de la Tchécoslovaquie les sauve d'une mort certaine, les jeunes se retrouvent toutefois dans le rôle de main-d'œuvre pas chère au Danemark. En 1940, le pays est envahi et occupé par les armées du Troisième Reich, mais la présence des nazis est plus prudente sur place. En tout cas, la pression n'est pas aussi radicale que dans d'autres territoires occupés. Les enfants reçoivent toutefois une lettre de la Ligue féminine les enjoignant à se tenir prêts à partir à n'importe quel moment. 3-4 enfants de Tchécoslovaquie parviennent encore à partir pour la Palestine. Les autres sont envoyés dans des endroits isolés au Danemark, loin du danger que représente la ville. En 1943, la police danoise les prévient qu'ils doivent partir en Suède.
Dans le cas de Susanna et de son futur mari Arnošt, celui-ci avait une sœur qui était au Danemark enceinte. Ils ont fui tous les trois alors que la sœur d'Arnošt était au 9e mois grâce à des bateaux de pêcheurs. Ils ont donné tout leur argent pour qu'un pêcheur les cache dans un local à poissons. Au lieu de se rendre en Suède en 30 minutes, le trajet a duré des heures car le bateau a fait tout pour éviter les patrouilles. En partant ainsi pour la Suède, ils ont perdu tout contact avec ceux qui sont considérés comme leur famille. Une dizaine de camarades issus du groupe qui ont remplacé en quelque sorte les familles qui étaient loin et dont ils n'avaient aucune nouvelle.
Après la guerre, Arnošt et Susanna retournent en Tchécoslovaquie. Là, ils découvrent l'ampleur du massacre. Tous les membres de leur famille ont disparu dans les chambres à gaz et les deux jeunes gens n'ont plus rien. Ils décident donc de retourner au Danemark où, malgré tout, ils ont forgé des attaches. Le putsch communiste de 1948 les en empêchera et ils resteront en Tchécoslovaquie. Aujourd'hui, Judita Matiášová s'efforce de collecter tout ce qu'elle peut sur ces cours sionistes qui ont sauvé la vie de dizaines d'enfants juifs. Son objectif, écrire un livre, monter une exposition, tourner un film qui devrait paraître en DVD, mais aussi faire en sorte que Susanna et Arnošt puissent peut-être retrouver certains de leurs amis perdus de vue dans le tourbillon de la guerre et des fuites. Judita Matiášová a également créé un site web grâce auquel elle veut faire connaître l'histoire de Susanna et celle de tous ces jeunes, une histoire faite de courage et d'abnégation. Plus d'informations au http://sophieschoice.webgarden.cz.